Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour. À l'heure du bicentenaire de la campagne de Russie, Canal Académie poursuit sa série d'émissions sur l'épisode sans doute le plus tragique et le plus mythique de l'histoire de l'Empire. Tragique par les centaines de milliers d'hommes qui ont péri dans l'aventure, bien souvent au terme de souffrances inimaginables, mais aussi mythique car il conduit Napoléon à sa perte et soulève la question de sa stratégie. Il est évidemment aisé, après coup, de s'interroger sur la stratégie de Napoléon en Russie, qui ne prit en compte ni l'étendue du territoire, ni le climat. Mais est-ce là ses seules faiblesses ? À Sainte-Hélène, Napoléon reviendra sur cette campagne de Russie, qui restait pour lui une énigme. Jamais il ne mit en cause ses motivations et sa stratégie, mais encore moins il ne s'interrogea sur celle de son adversaire. Or, en dépit de ce qu'a laissé croire l'historiographie française, le succès de l'armée russe n'est pas que le fruit des circonstances. C'est pourquoi, dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur la stratégie russe à travers les trois grandes figures que sont Barclay de Tolly, Koutouzov et le tsar Alexandre Ier. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Rey, auteure de L'effroyable tragédie, parue chez Flammarion. Marie-Pierre Rey, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeure d'histoire russe et soviétique à la Sorbonne, pas rien. Vous étiez déjà venue au micro de Canal Académie pour nous présenter votre biographie d'Alexandre et vous me disiez d'ailleurs qu'elle était sur le point d'être traduite en américain. Mais reprenons donc sur 1812. Lorsque Napoléon et l'armée des 20 nations franchit le Yémen, le tsar Alexandre n'est pas pris au dépourvu. On peut même dire qu'il s'y préparait depuis plusieurs mois. Est-ce bien dans cette perspective, Marie-Pierre Rey, qu'il avait nommé Michel, donc Barclay de Tolly, ministre de la guerre dès janvier 1810?
Alors en effet, Alexandre Ier s'est préparé à la guerre qu'il juge inéluctable très tôt. Dès la fin en réalité de l'année 1809, début de l'année 1810, le climat s'est considérablement dégradé entre les deux alliés de Tilsit et Alexandre Ier est de plus en plus convaincu que la guerre sera inévitable. Alors, c'est dans cette perspective qu'il commence à réorganiser son armée. Il est bien conscient qu'elle présente un certain nombre de faiblesses. Et pour ce faire, il nomme précisément Barclay de Tolly ministre de la guerre. Et ministre de la guerre, c'est une fonction clé, mais Barclay de Tolly en aura d'autres, puisqu'il sera commandant en chef de la première armée du tsar, celle qui va de fait faire face à la grande armée.
Alors, pourquoi avoir choisi cet homme ?
Alors, Barclay de Tolly est un homme à la personnalité intéressante. Il n'est pas russe d'origine, il est écossais d'origine. Sa famille s'est installée à Riga, il a vécu donc à Riga. C'est donc un balte et il est entré dans l'armée au service du tsar dès l'âge de 14 ans. Autrement dit, c'est vraiment un soldat de métier, un soldat de carrière. C'est un homme loyal, un homme extrêmement dévoué à Alexandre Ier qui a pu apprécier à la fois sa loyauté, son honnêteté, c'est un homme très scrupuleux, et puis son courage au feu. Il a été partie prenante à Austerlitz, il a été d'ailleurs grièvement blessé à Austerlitz, décoré par le tsar, et puis ensuite, il est celui qui a permis à la Russie de conquérir la Finlande. C'est le grand héros de la guerre de Finlande, et c'est aussi cela qui l'a rapproché à ce moment-là de l'empereur, qui l'a nommé gouverneur général de la Finlande. Autrement dit, Barclay, c'est à la fois un militaire, mais c'est aussi celui qui a administré la Finlande lorsqu'elle entre dans l'escarcelle, si je puis dire, de l'Empire russe. Donc un homme qui a plusieurs facettes et qui, de ce point de vue-là, était, d'après Alexandre Ier, tout à fait à même de mener ce gros effort de réorganisation militaire que nécessitaient les circonstances.
Quelles sont les premières mesures prises par Barclay de Tolly ?
Alors en fait, il va rationaliser. Il a pris des mesures sur plusieurs fronts, si je puis me permettre cette image. D'abord, il y a la rationalisation du commandement, une meilleure gestion administrative des services, de la chaîne de commandement. Ça, c'est son premier rapport. Et puis, il a aussi, au vu d'un certain nombre de textes, de rapports qui lui ont été fournis, d'améliorer la vie quotidienne, en réalité, du soldat, parce que les soldats russes étaient souvent mal nourris, extrêmement faible finalement, et ça n'était pas de bonnes recrues. On recrutait massivement, mais au bout du compte, sur le plan de l'action, si je puis dire, les hommes n'étaient pas toujours en capacité de répondre à ce qu'on leur demandait. Donc il va améliorer tout ce qui est de l'ordre de l'intendance, la vie quotidienne, améliorer aussi les exercices au tir, pour que les hommes soient beaucoup mieux entraînés. Ça, c'est le côté, je dirais, préparation des hommes. Et puis à côté de cela, il y a toute une réflexion sur la défense des frontières, avec la mise en place d'un certain nombre de constructions nouvelles, de forteresses, de forts, destinées précisément à ralentir, voire à empêcher le franchissement du Yémen.
Et en même temps donc, qu'il se lance dans cette réorganisation, s'ouvre un débat au sein du haut commandement russe sur le choix défensif ou offensif justement à faire vis-à-vis de Napoléon.
Alors ça, c'est une question extrêmement importante parce qu'elle est aussi aujourd'hui un objet de débat. Pour ma part, je considère que le débat est tranché, mais malgré tout, il reste un certain nombre d'écrits qui ne vont pas dans ce sens. Alors de quoi s'agit-il ? En réalité, on a eu tendance historiographiquement en France à considérer que les Russes n'avaient pas préparé, n'avaient pas conçu, n'avaient pas vraiment réfléchi à la stratégie à mettre en œuvre face à Napoléon. C'est en fait un mythe, puisqu'on s'aperçoit que dès 1810, un certain nombre de documents émanant soit de la correspondance personnelle de Barclay au tsar Alexandre Ier, soit de documents d'état-major, soit même, et c'est intéressant, des services de renseignement, des services d'espionnage, des services de renseignement très efficaces de l'empereur Alexandre Ier, tout cela montre, atteste qu'effectivement il y a discussion très tôt, dès 1810. Et la question cruciale est de savoir, d'une part, si l'on va mener une guerre défensive ou offensive. Donc là, on est à la jonction entre le politique et le militaire. Et deuxièmement, quelle sera sur le terrain la stratégie à mettre en œuvre ? C'est-à-dire, faudra-t-il attaquer, se défendre et lutter dans une bataille frontale, par exemple, ou faudra-t-il finalement esquiver cette fameuse bataille frontale, bataille décisive, qui a fait, jusqu'à 1810, le succès et le génie de Napoléon. Alors ces deux questions donc sont débattues. Elles ne font pas l'unanimité. C'est aussi ce qui explique qu'aujourd'hui, on ait parfois du mal, bien sûr, à se faire une religion sur cette question, parce que selon qu'on va mettre l'accent sur tel ou tel document, on peut aboutir évidemment à des interprétations différentes. Mais il me semble quand même que la majorité des documents montrent que, dans un premier temps, Alexandre Ier a envisagé une guerre offensive, c'est-à-dire une guerre au-delà de ses frontières, qui se jouerait en réalité en territoire polonais, à l'extérieur donc de ses propres frontières, et l'idée étant de ne pas être dépassé, bien sûr, de ne pas être pris de vitesse. Mais ce projet, il s'en ouvre en particulier à Adam Czartoryski, qui était prince polonais, qui était un de ses proches, et en lui demandant que feront les Polonais, seront-ils à mes côtés si j'avance et si je leur promets un certain nombre de droits. Et Czartoryski, à deux reprises, répondra à Alexandre Ier, sire, ils ne vous suivront pas, ils sont en réalité séduits par la politique de Napoléon à leur égard. Et fort de cette réponse, Alexandre Ier commence donc à se rabattre, pourrait-on dire, sur une guerre défensive. D'où l'accélération de tout ce qui est construction de forteresses pour justement défendre et non plus attaquer à l'extérieur de l'Empire. Parce qu'il sait que les masses qui composeront la grande armée seront importantes et que sans le soutien des Polonais, sans le soutien de ces territoires un peu tampons, pourrait-on dire, eh bien, il ne pourra pas l'emporter. Alors une fois que la question défensive est réglée, eh bien, va se poser la question de savoir comment, militairement sur le terrain, affronter Napoléon. Et c'est là que Barclay joue un rôle clé dans les propositions qu'il fait au tsar.
Quelles propositions fait-il au tsar ? Et le tsar suit-il son ministre ?
Alors, la question était de savoir si on allait pouvoir défendre ses frontières par ce jeu de forteresse qu'on mettait en place. Mais la crainte de Barclay, c'est que ce dispositif ne soit pas achevé, ne soit pas terminé si Napoléon, rapidement, envisage de porter l'offensive. Et donc, très tôt, dès le printemps 1810, dans un mémorandum très important, Barclay de Tolly affirme que si, par malheur, les frontières occidentales et les territoires occidentaux de l'Empire russe ne pouvaient pas être défendus, alors il faudrait se reculer, il faudrait se retirer vers l'Est pour ne porter bataille qu'en Russie centrale. Avec l'idée précisément que plus la Grande Armée va s'enfoncer, va s'avancer vers l'Est, plus elle s'affaiblira et que du coup ce rapport de force défavorable aux Russes s'inversera. Alors cette idée, elle va séduire Alexandre Ier qui va la faire sienne. Et on en veut pour preuve qu'en 1811, À Caulaincourt, qui est à ce moment-là l'ambassadeur de Napoléon à la cour de Russie, Alexandre Ier évoquera cette affaire en lui disant « Si l'empereur Napoléon me fait la guerre, il est possible qu'il me battra, mais cela ne lui donnera pas la victoire décisive. » Donc déjà, il est bien dans cette logique-là. Et par ailleurs, dit-il, « Il nous battra si nous acceptons le combat. » C'est l'autre partie de la phrase qui est intéressante, « Si nous acceptons le combat. » Et dans cette même déclaration, Alexandre Ier met en avant l'étendue du territoire et il termine en disant « Notre climat, notre hiver feront la guerre pour nous. » Ce qui est déjà évidemment l'intuition capitale qu'il faut parier face à cet ennemi qu'il juge un génie militaire. Alexandre Ier parle de Napoléon comme d'un génie militaire. Eh bien, il faut, pour pouvoir espérer le vaincre, refuser ce schéma qui est celui de la bataille décisive rapide sur le modèle de Friedland, sur le modèle d'Austerlitz, Jena, que Napoléon en réalité recherche.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause et nous verrons les résultats de la stratégie russe lors des premiers combats dans une deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Pierre Rey, venue nous présenter la stratégie russe à travers les trois chefs que sont le tsar, bien sûr, Barclay de Tolly, dont nous avons beaucoup parlé, et Kutuzov, qui va bientôt entrer en scène. Donc, nous avons quitté l'armée russe, ses chefs, je dirais, à l'état préparatif. Donc, Napoléon franchit le Niémen en 1812. Donc, ils ont opté pour une guerre défensive. Qu'est-ce qui va se passer lors des premiers contacts entre les deux armées, entre les Russes et l'armée de Napoléon ? Quelle va être la réaction de l'armée russe ?
Napoléon donc franchit le Niémen le 24 juin au matin, au tout petit matin, et cette traversée du Niémen va durer jusqu'au 27 juin au soir. Il faut s'imaginer ce que ça représentait. 420 000 hommes, 420 000, on évalue à 150 000 le nombre de chevaux, 3 000 canons, bref, c'est une énorme marée humaine qui traverse le Niémen. Et Alexandre Ier a beau y être préparé, le choc quand même va être très très grand car il a sous-évalué en réalité le nombre précisément, enfin la valeur et le nombre des effectifs engagés. Et on sait que Napoléon, dès qu'il franchit le Niémen, marche sur Vilnius. Sa stratégie est de marcher sur Vilnius parce que c'est à Vilnius que se trouvent le tsar et Barclay de Tolly, c'est-à-dire cette première armée occidentale qui est la plus importante. Et son objectif est de couper, de séparer les deux armées, celle conduite par Barclay et celle conduite par Bagration. Alors Bagration, commandant en chef de la seconde armée, est un homme intéressant aussi parce que lui n'était pas favorable à la stratégie du repli. Il considérait que c'était faire acte de lâcheté et il était au contraire favorable à ce que les Russes se battent. Et on aura beaucoup de lettres de Bagration toujours agacé, en colère contre son état-major et son chef d'état-major, et le commandant en chef donc qui le contraigne à cette stratégie qu'il désapprouve. Mais il obéit bien sûr et il est donc lui un peu plus au sud. Et Napoléon a pour objectif de concentrer ses troupes sur la première armée et d'essayer de l'anéantir, toujours au terme de cette victoire décisive, ou, s'il ne peut pas l'anéantir, de l'affaiblir au maximum pour s'interposer entre les deux armées russes et empêcher leur jonction. Alors la stratégie russe va en réalité être très vite d'abord de tenter de défendre Drissa, qui était un camp retranché, un camp défensif qui avait été organisé, conçu pour essayer de résister. Et puis en réalité, dès que Barclay arrive à Drissa et que Alexandre Ier arrive à Drissa, il se rend compte que ce camp qui a été fortifié ne résistera pas et qu'il faut donc se retirer. Et à partir de là, eh bien, on va avoir ce mouvement de retraite. Alors, qui est intéressant, pourquoi ? Eh bien, parce que en réalité, il s'accompagne d'une destruction systématique des magasins de vivres, des entrepôts de munitions, bref, de tout ce qui peut servir à l'ennemi. Et lorsque le 28 juin, donc 4 jours après avoir franchi Niémen, Napoléon entre dans Vilnius, il est d'une part accueilli en libérateur, car ce sont des populations polono-lituaniennes favorables à la grande armée, dont elles escomptent le rétablissement d'un État polonais, mais en même temps, il ne trouve déjà pas sur place de quoi nourrir ses troupes. Et ce schéma, en fait, va se répéter. Et il se répète pourquoi ? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que Napoléon avait équipé ses hommes en 3 semaines de vivres. Mais il comptait, comme on le faisait classiquement à l'époque, se nourrir sur la bête, c'est-à-dire se nourrir, on pillait à l'époque tout ce qu'on pouvait arracher à la population locale. Et comme Barclay précisément détruit sur sa retraite tout ce qui peut servir à l'ennemi, cela ne peut pas fonctionner. Et le deuxième problème auquel va se heurter Napoléon, c'est qu'il a bien sûr prévu des magasins, c'est-à-dire des entrepôts dans lesquels on pourrait ainsi soutenir la grande armée en marche. Et le premier devait être installé à Vinnius. Mais pour alimenter ces magasins d'une part, et ensuite pour assurer l'approvisionnement entre les magasins en question et les hommes, eh bien, il fallait avancer avec des chariots, des charrettes, etc. Or, le problème clé qu'il a sous-estimé, c'est le mauvais état des routes. Et il se trouve que non seulement ces routes sont en mauvais état, mais qu'elles sont confrontées dès la fin juin à des pluies diluviennes qui vont en fait raviner et qui vont considérablement ralentir la progression des charrettes et des chariots. Et on arrive à une situation absolument incroyable qui est que lorsqu'elle entre à Vinnius, donc le 28 juin, la grande armée, donc les fantassins, devance déjà ses vivres de presque 3 jours. Autrement dit, on a déjà des hommes qui sont sous-nourris au moment même où ils ont à peine finalement commencé la campagne de Russie.
Et ils n'ont toujours pas eu la bataille décisive. Ils ne l'auront pas avant longtemps, je veux dire.
Voilà, en fait, ils ne l'ont jamais eu parce qu'il n'y a jamais eu, et c'est le gros problème de cette campagne, de victoire décisive. Les Russes ont systématiquement évité la bataille frontale. Il y a eu des affaires. À l'époque, on employait le terme « affaires » pour désigner ces batailles latérales, ces batailles ponctuelles, très localisées, qui n'engageaient que des effectifs limités. Mais bien sûr, Napoléon remporte des affaires, remporte des batailles, mais elles ne sont jamais décisives et elles ne contraignent à aucun moment le tsar à la négociation. Et c'est pourquoi il est, malgré lui, contraint d'avancer. Et
elles ne contraignent jamais le tsar à la négociation, mais elles vont l'obliger à faire des choix parce que ces petites batailles, qui vont souvent tourner à l'avantage quand même de Napoléon et de son armée, vont avoir des répercussions sur le moral des combattants russes et vont déclencher des divisions au sein du commandement.
Oui, alors c'est un point très important. Effectivement, Napoléon remporte des combats ponctuels, avec à chaque fois des pertes très lourdes des deux côtés d'ailleurs, mais souvent du côté russe. Donc ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est que psychologiquement, c'est très dur à l'époque, au moment où la guerre se joue, d'accepter de voir son territoire abandonné à l'ennemi. Il faut se rendre compte que la grande armée avance et que pendant ce temps, les Russes reculent, ce qui psychologiquement est dur à la fois à supporter par les soldats, les combattants russes, et puis aussi par la population qui se sent totalement abandonnée et souvent d'ailleurs contrainte d'abandonner ses villages, ses bourgs, ses villes pour ne pas que leurs biens tombent aux mains de la grande armée. Donc c'est un moment très difficile et il faut aussi ajouter qu'il y a eu quelques grandes batailles très dures, dont la bataille de Smolensk à la mi-août qui est très très dure. La ville est en fait prise d'assaut, mais elle subit le feu des boulets, des canonnades très fortes de la part donc de la grande armée, et des centaines de civils vont mourir, soit asphyxiés, soit brûlés vifs à l'intérieur des remparts de la ville. Et on a également plusieurs centaines de blessés qui vont mourir ainsi. Et donc c'est un traumatisme pour la population russe. Et à partir de là, la colère gronde de plus en plus devant la stratégie de repli interminable qu'a choisi Barclay. Et on voit apparaître à ce moment-là des rumeurs très sévères à l'encontre de Barclay, accusé de faire le jeu de Napoléon, accusé même d'être un agent à la solde de Napoléon.
Alors devant ces rumeurs, le tsar Alexandre va être obligé de réagir et de se séparer de son ministre.
Alors, il se sépare à la fois, enfin, il se sépare surtout de celui qui était le commandant en chef de son armée et il va nommer à sa place Kutuzov. Alors, les deux hommes n'ont pas du tout la même personnalité. Ils n'appartiennent d'ailleurs même pas à la même génération. Barclay a une 40aine d'années, 42 ans au moment de 1812. Kutuzov est plus âgé, il a 67 ans. C'est lui aussi un grand soldat, un soldat aguerri. C'est le fils spirituel du grand Souvarov, donc un homme qui a beaucoup contribué à la gloire de l'armée russe. Il s'est illustré dans les guerres contre l'Empire ottoman. Il a tout un palmarès prestigieux militaire à son actif. Mais effectivement, en 1812, l'image le représente, hein, l'imagerie populaire le voit toujours, il est borgne, il est impotent, il n'arrive plus à monter à cheval. Donc évidemment, il incarne tout autre chose. Mais surtout, c'est un homme très charismatique. Il sait établir une relation très forte, affective avec ses soldats, alors que Barclay, peut-être parce qu'il est balte finalement, beaucoup plus froid, n'a pas cette rondeur, n'a pas cette proximité. Et d'autre part, Kutuzov est russe. Et ça, c'est évidemment l'élément crucial, parce que désormais, la guerre se joue en Russie centrale, elle se joue en territoire russe. On n'est plus en périphérie, on n'est plus en terre polono-lituanienne. Et du coup, pour cimenter à la fois l'armée et la population, eh bien, Alexandre Ier fait le choix de Kutuzov, de celui qui lui semble plus à même.
Choix qui lui coûte, parce qu'il n'en apprécie pas vraiment la personnalité.
Alors, oui, il n'apprécie pas du tout la personnalité de Kutuzov, parce que Kutuzov est un épicurien. Kutuzov est un homme qui aime bien vivre, bien boire. Il a même des mœurs dissolues. On a des témoignages de l'époque assez clairs sur ce sujet, alors qu'Alexandre Ier est assez pudibond, assez austère dans son mode de vie. Et évidemment, de ce point de vue-là, les deux hommes s'entendent peu. En outre, il faut bien dire que Kutuzov, c'est pour Alexandre Ier le souvenir permanent de la tragédie qui a été pour lui Austerlitz. Et tout cela fait que les deux hommes ont des relations un peu difficiles, mais Alexandre Ier fera ce choix par réel politique et il l'exprime très clairement dans une lettre à sa sœur Catherine où il justifie ce choix en expliquant que voilà, c'est sans doute l'homme qui est le plus capable de sauver la situation.
Alors Kutuzov est nommé le 20 août 1812. Grande question, va-t-il changer de stratégie ?
Alors, il est nommé pour justement mener cette bataille que la plus grande partie de l'armée lui réclame, et en particulier justement Bagration, hein, qui ne cesse de monter au créneau pour réclamer cette bataille. Alors, ce qui est assez extraordinaire dans cette période, c'est que finalement, des deux côtés, on va se préparer à cette bataille. Et des deux côtés, on escompte évidemment une victoire qui sera décisive. Napoléon, parce que c'est sa stratégie depuis le début, les Russes, parce que l'armée le leur réclame. Et progressivement, on va converger vers le site de Borodino, que les Français nous appelons la Moscova. Pourquoi 120 km de Moscou? Parce que c'est un lieu évidemment stratégique et c'est sans doute un des derniers lieux susceptibles d'empêcher la Grande Armée de prendre Moscou. Mais en réalité, on le sait, et c'est ça qui est un petit peu étonnant et fascinant, cette bataille dans laquelle des deux côtés on va engager des effectifs énormes, colossaux, hein, eh bien ne va rien régler, parce que ce sera une victoire française sur le terrain, puisque Napoléon reste maître du terrain au soir du 7 septembre, date de la bataille, mais l'écart n'est pas suffisant pour régler le sort de la guerre. Il tient sa victoire, mais elle n'est en rien décisive. Et du coup, les hostilités continuent, se poursuivent et le contraignent encore et toujours à avancer vers l'Est.
À avancer vers l'Est, mais au soir de la bataille de Borodino, Napoléon s'attend à ce que le lendemain, Kutuzov poursuive les combats. Kutuzov ne va pas faire ce choix, il choisit le repli, et donc de ne pas défendre Moscou.
Oui, et c'est en ce sens, bien sûr, qu'il renoue avec la stratégie de Barclay de Tolly. Alors pourquoi ? Pourquoi cette situation ? Quand on regarde les effectifs des pertes au soir de la bataille de Borodino, et ces chiffres sont très intéressants, on évalue à 25 à 28 000 le nombre de pertes. Alors par pertes, on entend morts et blessés graves et disparus. 25 à 28 000, donc, le nombre des pertes côté Grande Armée, soit le cinquième des effectifs engagés. Côté russe, on est entre 40 et 42 000, donc des chiffres encore plus élevés, soit le tiers des effectifs engagés. Autrement dit, mathématiquement, comptablement, pourrait-on dire, et militairement, Napoléon sort vainqueur de cette terrible bataille qui a duré une dizaine d'heures. Et vous voyez qu'en 10 heures, on a fait des pertes absolument colossales. Mais pour autant, il n'a pas de victoire décisive et il s'attend à ce que le lendemain, la bataille reprenne et il commence à s'y préparer. Côté russe, on a envisagé cette option, mais en réalité, très peu de temps. Le soir même, en fin de soirée, Kutuzov est déjà résigné à ne pas reprendre les hostilités le lendemain. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est bien conscient que ses pertes sont énormes et surtout, il se trouve que sur le terrain, la deuxième armée non pas celle qui était conduite par Barclay, mais celle qui était conduite par Bagration, a été totalement anéantie. Et Bagration lui-même va être mortellement blessé à Borodino. Il meurt quelques jours plus tard. Et donc, pour les Russes, c'est vraiment un coup de massue, parce que peut-être la figure la plus emblématique de ce courage russe disparaît à Borodino, et que cette seconde armée totalement décapitée de ses chefs, de ses hauts officiers et de ses grandes figures. Donc c'est la raison pour laquelle, au soir de Borodino, Kutuzov fait le constat qu'il lui faut en réalité abandonner le terrain et se retirer. L'idée étant que, en se retirant, eh bien, il va permettre à de nouvelles troupes qui ont été dans l'intervalle levées de rejoindre l'armée russe et bien entendu du coup de contrebalancer le rapport de force.
Alors nous arrivons au terme de notre émission déjà. L'entrée de la Grande Armée dans Moscou et le sort de la Grande Armée dans Moscou feront l'objet d'une autre émission. Pouvez-vous juste nous indiquer, Marie-Pierre, si les Russes vont conserver cette stratégie du repli jusqu'à la fin et si vous pensez qu'en fait elle les a peut-être empêchés de mettre la main sur Napoléon finalement ?
Alors, à la retraite, lorsque Napoléon est contraint de repartir, il est contraint de reprendre la même route qu'il a prise à l'aller, et donc il trouve de plus en plus de mal pour nourrir ses troupes, et la Grande Armée s'affaiblit de jour en jour. Donc, dès lors, pour les Russes, se poser la question de savoir, fallait-il forcément chercher à s'emparer de Napoléon, sachant qu'il avait quand même sa garde impériale, des hommes qui lui étaient très dévoués, et que cela serait donc coûteux en vies humaines, ou fallait-il finalement se contenter par les troupes irrégulières, les troupes cosaques, de harceler cette grande armée sur son repli pour qu'elle parte au plus vite. Et il ne faut pas oublier que même si les Russes sont mieux nourris, mieux équipés que la grande armée, cette année-là, l'hiver, en particulier en décembre, devient extrêmement rigoureux. On va avoir des températures qui descendent jusqu'à moins 37. Donc les Russes aussi commencent à souffrir du froid et un petit peu de la faim sur la fin de la période. Donc l'idée de Kutuzov était que finalement, il n'était pas forcément utile d'exposer inutilement ces hommes, alors que finalement, désormais de fait, le climat et l'hiver jouaient pour lui. Et on retrouve là un élément intéressant qui est précisément son attachement à ses hommes. Kutuzov est attaché à ses soldats et c'est aussi la raison pour laquelle il ne veut pas en réalité les exposer inutilement à des souffrances et à la mort. Et puis là-dessus s'ajoute un deuxième élément qui est géopolitique. Kutuzov n'était pas forcément favorable à l'anéantissement complet de Napoléon. Pour lui, il suffisait que Napoléon soit vaincu. Pourquoi ? Parce qu'il considérait, et c'est notable et pas forcément très bien connu, et il considérait que si on anéantissait, y compris par la mort, Napoléon, eh bien, peut-être que l'Angleterre, en réalité, tirerait les marrons du feu. Et du coup, c'est sans doute aussi cet élément qui participe de cette situation et qui explique pourquoi Napoléon pourra quitter, sans trop de difficultés, dirons-nous, le territoire russe. Et puis, bien entendu, jouera aussi là-dedans le coup de génie de la Bérézina, cette stratégie extrêmement brillante qu'il a mise en œuvre et qui a conduit les Russes à déplacer leurs hommes et finalement à le laisser partir.
Merci infiniment Marie-Pierre Rey. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'effroyable tragédie, paru chez Flammarion. Merci de nous avoir suivis et au revoir à tous et à toutes.